Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est avec grande joie, une grande satisfaction que je me trouve aujourd'hui au milieu de vous, dans cette admirable église Sainte-Claire, remplie de tant de souvenirs. Et il se trouve que la Providence a choisi le premier dimanche de carême pour que je me trouve parmi vous. Alors, vous me permettrez de vous donner quelques conseils pour bien pratiquer ce carême qui n'est autre que la préparation de la belle fête de Pâques. Vous faire participer à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais avant, il faut que nous participions aussi à sa passion, à sa rédemption, à son sacrifice. Et alors, je vous donnerai deux conseils. Il est vrai que le carême est un temps de pénitence, et par conséquent que nous devons faire quelques efforts pour nous priver des satisfactions habituelles, du manger, du boire, et que sais-je, et autres satisfactions dont il est bon de se priver de temps en temps pour nous attacher davantage aux biens spirituels, oublier un peu les biens temporels pour nous élever vers les biens éternels. Mais je pense que plus encore que ces pénitences, il plaît à Dieu que nous pratiquions ses commandements. Dieu nous a créés pour le rejoindre un jour. Et ce chemin qui nous conduit à lui, à travers les quelques années que nous passons ici-bas, sont orientés vers lui par sa loi. Sa loi n'est autre, en définitive, que les jalons que notre Seigneur a posés le long de notre chemin terrestre pour arriver au ciel, pour arriver au bonheur céleste. Quels sont donc ces commandements de Dieu? Eh bien, notre Seigneur a pris soin lui-même, et saint Paul aussi nous le répète. Ces commandements de Dieu consistent tout simplement à aimer Dieu et à aimer son prochain. Tous les commandements de Dieu se résument à cela. Et dans la mesure où nous aimons Dieu et nous aimons notre prochain, et que nous le manifestons dans notre vie quotidienne, dans nos actions de tous les jours, eh bien, nous nous dirigeons paisiblement vers le bonheur du ciel. Aimer le bon Dieu, eh bien, comment, d'une manière particulière, manifester notre amour vers le bon Dieu? Je pense que la manière la plus profonde, la plus essentielle de manifester notre amour vers au bon Dieu, c'est de prier, la prière. En effet, nous avons tous appris dans notre catéchisme, le petit catéchisme d'autrefois, je ne sais pas comment on le définit aujourd'hui, comment on définit la prière dans les catéchismes d'aujourd'hui, comme ces catéchismes ont malheureusement tout déformé et qu'il n'y a plus de définition. Mais nous, nous gardons la bonne définition du temps d'autrefois. La prière est une élévation de notre âme vers Dieu. C'est simple, c'est peu de choses, mais c'est beaucoup. Élever nos âmes vers Dieu. Et oui, je pense que si nous pratiquions davantage cette définition de la prière, d'élever nos âmes vers le bon Dieu, nous serions moins attachés justement au bien de cette terre et nous serions davantage attachés à Dieu lui-même et au bien céleste. Par conséquent, faisons un effort au cours de ce carême pour mieux prier et pour prier davantage. Et quelles sont les manières de prier? Quelles sont les différentes espèces de prières? Eh bien, il y a la prière vocale, celle que vous faites ici, au cours de cette sainte messe, au cours des exercices que vous faites en commun, le chapelet que vous récitiez tout à l'heure. Ce sont les prières vocales par lesquelles vous exprimez votre amour au bon Dieu et par lesquelles vous élevez votre âme vers le bon Dieu. C'est donc une prière que nous devons beaucoup estimer et pratiquer. Pratiquer particulièrement l'assistance à la messe. Et aussi, lorsque nous le pouvons, réciter notre rosaire, prier la Très Sainte Vierge Marie, nous unir à elle. Et toutes les pratiques de prière vocale, et toutes les dévotions que les approuvées par l'Église, et qui sont celles que toutes les âmes dévotes ont fait au cours de leur vie, et qui maintenant chantent les louanges du bon Dieu au ciel, qui nous ont précédés au ciel, particulièrement les saints, les saintes. Notre moyen de prier, c'est la prière mentale, ce qu'on appelle l'oraison mentale. L'oraison mentale consiste à élever son esprit vers le bon Dieu en réfléchissant aux grandeurs de Dieu, aux perfections de Dieu, mais sans prononcer de paroles extérieures. C'est la prière de celui qui vient au cours de la journée se recueillir auprès du Saint-Sacrement, auprès de notre Seigneur, et qui, sans avoir besoin de prononcer des paroles, élève son âme vers le bon Dieu, s'unit au bon Dieu, pense à lui, vit quelque temps avec lui, se séparant ainsi des soucis de ce monde, des soucis quotidiens, pour élever son âme vers le bon Dieu. C'est la prière mentale. Elle est conseillée, bien sûr, par tous les directeurs spirituels, par tous les saints, par tous ceux qui ont fondé les ordres. Vous savez bien que c'est les bonnes Clarisses qui étaient ici avant, derrière ces grilles, pratiquaient l'oraison mentale pendant de longs moments. Et il en est ainsi dans tous les carmels, dans toutes les congrégations, même actives, contemplatives, toutes les congrégations religieuses et même les règlements du clergé demandent aux prêtres, demandent aux religieux, aux religieuses de pratiquer l'oraison mentale. Alors il est bon pour les fidèles aussi d'imiter ceux qui sont particulièrement consacrés au bon Dieu et de pratiquer cette oraison mentale. On peut la faire non seulement dans une église, dans une chapelle, on peut la faire chez soi, on peut la faire devant une statue de la Vierge, un crucifix, une petite chapelle qu'on a pratiquée dans sa maison. Et on peut très bien prier notre Seigneur et s'unir à la Très Sainte Vierge Marie dans son esprit. Il y a une troisième espèce de prière, qui est l'essentielle, qui est la plus importante. Prière vocale, oraison mentale, la prière du cœur. La prière du cœur, mais qu'est-ce que la prière du cœur? La prière du cœur, c'est celle qui exprime intérieurement l'amour qu'on a pour le bon Dieu. Sans même penser, c'est-à-dire avoir des pensées particulières, voyez, sur tel sujet, telle perfection du bon Dieu, telle manifestation de la charité de Dieu envers nous, mais tout simplement aimer Dieu, exprimer notre amour au bon Dieu. Il ressemble un peu à ce qu'un enfant peut, qui est entre les bras de sa mère, peut avoir dans son cœur pour sa maman et pour son papa. Il est heureux, il est dans les bras de son père, de sa mère, il ne pense pas à autre chose, il ne pense qu'à aimer ses parents. Eh bien, nous aussi, nous devrions avoir cet amour naturel, profond, constant, pour le bon Dieu. Et cette prière est la plus agréable au bon Dieu parce qu'elle nous met à la disposition du bon Dieu. Nous nous offrons par le fait même tout entier à Dieu. Et nous offrons à Dieu Nous offrons notre cœur, nous offrons notre volonté, nous offrons notre temps, nous offrons tout ce que nous sommes à celui qui nous a créés, à celui qui nous a fait, à celui qui nous attend pour nous donner ce bonheur céleste qu'il a préparé pour nous. Et c'est le meilleur moyen de ne plus pécher, du moins de ne plus pécher gravement. Comment celui qui aime vraiment le bon Dieu, qui en quelque sorte donne son être et tout ce qu'il est, tout au cours de sa journée, tout le temps, cette prière du cœur peut exister toujours, sans arrêt. Que l'enfant qui aime ses parents les aime toujours. Avec une continuité parfaite. Eh bien, nous aussi, nous devrions aimer de cette manière le bon Dieu. Et l'aimant de cette manière, le péché nous fera peur. Parce que nous sentirons qu'une désobéissance au bon Dieu nous éloigne de lui. Alors, si vraiment nous l'aimons, comment pouvoir à la fois l'aimer de tout notre cœur et en même temps lui déplaire, et en même temps lui désobéir? Il y a comme une espèce de contradiction, vous voyez pourquoi la prière du cœur est si importante. Je vous engage beaucoup au cours de ce carême de vous mettre dans les mains du bon Dieu, d'oublier un peu les choses de ce monde pour vous attacher au bon Dieu. C'est le premier conseil que je vous donnerai au sujet de cette réalisation de la loi du bon Dieu qui nous demande de l'aimer, les trois premiers commandements, la première table de la loi de Moïse. La première table portait ces trois commandements pour le bon Dieu. La deuxième table, c'était celle qui indiquait la loi de l'amour du prochain. Comment pourrions-nous manifester notre amour vers le prochain? Oh, certes, par le service que nous rendons à notre prochain dans nos familles, dans notre profession, dans notre vie quotidienne. Mais nous pourrions aussi nous demander comment nous manquons de la manière la plus fréquente à l'amour envers notre prochain. Eh bien, il faut pour cela consulter Saint Jacques. Saint Jacques, dans sa lettre qu'il a écrite et qui nous est consignée dans la Sainte Écriture, nous parle de ce petit membre que le bon Dieu nous a donné et qui s'appelle la langue. Et il nous dit, c'est avec la langue que l'on chante les louanges du bon Dieu, mais c'est aussi avec la langue qu'on allume le feu de l'iniquité et le feu de la division. Et c'est vrai. Alors, faisons un effort pour pratiquer la charité de la parole et par le fait même la charité de la pensée aussi. Évitons les jugements téméraires, évitons les médisances, évitons les calomnies qui sont si faciles et si tentantes parfois dans les conversations. On aime malheureusement critiquer ceci, cela, essayer de diviser au lieu d'unir, au lieu de pratiquer la charité. Alors faisons un effort pour manifester l'amour de notre prochain au cours de ce carême en essayant d'éviter les médisances, les calomnies, tous ces péchés de la langue. Voilà, mes bien chers frères, le conseil qui me semble bon de vous donner au début de ce carême. Et demandons à la très sainte Vierge Marie, demandons à Saint Joseph et à l'enfant Jésus de vivre comme eux ont vécu à Nazareth. Il faut penser que l'exemple que notre Seigneur nous a donné est absolument remarquable. Dieu lui-même, car c'est Dieu qui est descendu parmi nous, qu'a-t-il fait pendant les 33 années de sa vie? 30 ans dans sa famille. Sur les 33 années de sa vie qu'il a passées ici-bas, avant de monter au ciel, 30 ans dans la vie de famille. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas, sauf le petit événement de notre Seigneur demeurant à Jérusalem et quittant ses parents pour aller enseigner les docteurs de la loi, c'est le seul événement que nous connaissons au cours de son enfance, de son adolescence, jusqu'à l'âge de 30 ans, mais il a pratiqué la charité dans la famille. Eh bien, c'est un exemple admirable que notre Seigneur nous donne. Il ne nous demande pas donc des choses absolument impossibles, des choses difficiles. Seulement la pratique de la charité. Pratique de la charité envers Dieu, pratique de la charité envers le prochain, comme il l'a fait lui-même dans la famille de Nazareth. Alors demandons à la Vierge Marie, à Saint Joseph, de nous aider à pratiquer cette charité pour que, avec la grâce du bon Dieu, avec la grâce des sacrements que nous recevons, eh bien nous nous dirigions lentement vers le but pour lequel nous sommes ici-bas, partager un jour le bonheur du ciel avec tous ceux que nous aimons et qui nous ont quittés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici réunis à l'occasion du pèlerinage que vous désirez faire à Notre-Dame des Marches pour la remercier du don que le bon Dieu a fait à tous les fidèles qui veulent demeurer membre de la Sainte Église catholique, du don extraordinaire de ces quatre évêques. Il peut paraître surprenant qu'il ait fallu, pour continuer la Sainte Église catholique, consacrer des prêtres apparemment sans l'autorisation de Rome. Mais les circonstances sont telles, mes bien chers frères, et vous le savez bien vous-même, et vous le constatez autour de vous, les circonstances sont telles que l'apostasie se répand partout, partout. Et non seulement dans les rangs des fidèles, mais dans les rangs du clergé. Et cette apostasie se répand même dans les milieux romains. Apostasie qui a été prédite par la Sainte Écriture. Apostasie prédite plusieurs fois par la très sainte Vierge Marie, à la Salette particulièrement, à Fatima, et dans bien d'autres circonstances. La très sainte Vierge a averti qu'à la fin de ce 20e siècle, il y aurait dans l'Église une situation incroyable qui risquerait de faire perdre la foi à tous les catholiques, à tous les chrétiens. Mais en même temps, toutes ces prophéties nous annoncent qu'il restera dans l'Église un petit groupe de fidèles qui maintiendront la foi catholique, qui ne perdront pas la foi par une grâce particulière du bon Dieu. Ils comprendront que la première chose à garder pour rester catholique, pour rester fidèle à Dieu, c'est de maintenir sa foi catholique. À l'exemple de tous les martyrs. Qu'est-ce qu'un martyr ? Un martyr, c'est un témoin, témoin de la foi catholique, qui a préféré verser son sang plutôt que d'abandonner la foi. Eh bien, vous aussi, vous êtes des témoins. De même que tous ces martyrs ont été persécutés, méprisés, parce qu'ils voulaient garder la foi, eh bien, vous aussi, vous êtes, dans bien des circonstances, persécutés, méprisés. Vous souffrez de la séparation de membres de votre famille qui ne vous comprennent pas, parce que vous suivez des prêtres qui, pour eux, ne sont des prêtres schismatiques. Eh bien, non. Vous voulez maintenir votre foi catholique et pour cela, vous suivez des prêtres qui gardent la foi catholique. et vous suivez des évêques qui veulent garder la foi catholique. Ce n'est pas pour autre chose que nous sommes réunis ici, aujourd'hui, dans un local provisoire, un local qui n'est pas une église. Certes, nous remercions le bon Dieu que les circonstances permettent que nous ayons acquis ce local afin de permettre justement à tous ceux qui désirent garder la foi de pouvoir se réunir et d'y trouver les vrais sacrements et d'y trouver la vraie foi. Mais ce sont des circonstances et des conditions qui sont des conditions de persécution, comme dans des temps de persécution, comme les fidèles au temps des persécutions, dans les premiers siècles de l'Église, se réfugiaient dans des catacombes, dans les lieux éloignés. Nous vivons ces temps-là, mes bien chers frères, des temps extraordinaires, mais aussi des temps où le bon Dieu donne des grâces particulières, des grâces absolument inouïes. Nous le constatons partout, partout. Comment se fait-il que dans ces circonstances difficiles, dans le moment où les vocations, par exemple, disparaissent, il n'y a plus de vocation sacerdotale, plus de vocation religieuse, eh bien, pendant ce temps, nous voyons venir frapper à la porte de nos séminaires, venir frapper à la porte des couvents de nos religieuses, des jeunes gens, des jeunes filles, nés après le concile. Comment ces jeunes, qui n'ont même pas connu la situation avant le concile, peuvent désirer la tradition? Mais ils ont compris, le bon Dieu leur a donné une grâce particulière. C'est-à-dire, là est l'Église. Là où est la tradition, là est l'Église. Et alors, ils viennent. Ils viennent demander de s'agréger à nos familles religieuses. Viennent s'agréger à notre fraternité afin de recevoir les grâces que le bon Dieu donne aux âmes qui sont fidèles. Nous avons eu une très belle rentrée cette année à Flavigny et à Zeiskofen, de jeunes qui désirent être prêtres malgré les persécutions. Malgré ces fausses excommunications, ces faux bruits de schisme, malgré cela, eh bien, ils ont eu le courage de venir et de demander à faire partie de notre famille. Parce qu'ils savent qu'en faisant partie de cette famille traditionnelle, ils sont dans l'Église, ils sont des témoins de l'Église, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que l'on peut dire « là est l'Église » ? C'est la foi. La foi et la sainteté, ce sont les deux notes de l'Église catholique qui sont les plus importantes. La foi et la sainteté. Parce que quand nous professons que l'Église est une catholique, apostolique, au fond, nous professons la même chose. L'unité de la foi. L'Église est une dans sa foi. Et cette foi, elle est catholique parce qu'elle s'étend dans l'univers entier. Cette foi est apostolique parce qu'elle s'étend à tous les siècles. Elle nous vient depuis les apôtres, donc elle est apostolique. Mais c'est la même foi, précisément, cette foi catholique. Alors, au fond, on peut dire qu'il y a vraiment deux notes de l'Église principale. La foi, l'unité de la foi, avoir toujours la même foi que ceux qui ont cru avant nous et que ceux qui sont membres de l'Église catholique partout dans le monde. Et puis, la sainteté. Alors, c'est cela que nous devons garder à tout prix. Garder la foi pour devenir des saints, des âmes sanctifiées. Parce que si nous avons la foi, nous croyons en la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, dans tous les sacrements et particulièrement dans la Sainte Eucharistie. Nous croyons à la présence de Dieu. Alors nous trouvons là la source de la vie, dans le baptême qui nous fait enfants de Dieu et de l'Église. Et ce baptême nous permet ensuite de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie au cours de notre vie et d'entretenir ainsi en nous la vie du bon Dieu. Voilà ce qu'est être catholique. Et nous en avons besoin. Nous ne pouvons pas nous sauver sans la foi et sans la grâce. C'est impossible. Celui qui ne croit pas ne peut pas être sauvé. Celui qui n'a pas la grâce sanctifiante, la vie de Dieu en lui, ne veut pas se sauver non plus. Alors nous y tenons fermement. Et nous remercions le bon Dieu de nous avoir donné cette grâce particulière de nous maintenir dans la foi catholique et dans la grâce du bon Dieu. C'est pourquoi ces lieux de culte sont si importants. Parce que dans ces lieux de culte sont baptisés les enfants, et puis les âmes peuvent recevoir la grâce du sacrement de pénitence, peuvent assister et participer au saint sacrifice de la messe et recevoir la sainte communion dignement avec la foi en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans la sainte Eucharistie et recevoir le sacrement de mariage, le sacrement d'ordre, d'ordination. Les sacrements tous les sacrements peuvent être reçus. Et quand le bon Dieu nous rappellera, eh bien, nos corps pourront venir dans ces lieux de culte et recevoir la bénédiction du bon Dieu avant d'aller à notre dernière demeure. Tout cela est important, est indispensable. Nous avons besoin de cela absolument pour vivre chrétiennement, n'est-ce pas? Alors remercions le bon Dieu qui nous a donné ces quatre évêques, parce que sans évêque, il n'y a pas de prêtre. Sans prêtre, il n'y a pas de fidèle. Alors c'est la fin de l'Église. Grâce aux évêques, il y aura des prêtres fidèles, des prêtres catholiques. Grâce aux prêtres catholiques, il y aura des fidèles catholiques. Voilà, alors, dans ces circonstances tragiques que nous traversons aujourd'hui, eh bien, nous devons remercier le bon Dieu de nous faire cette grâce, de nous avoir agrégés à ce petit troupeau fidèle sur lequel le bon Dieu veille comme la prunelle de ses yeux. Il veille sur nous, il nous aime, il nous regarde prier, il nous regarde nous sanctifier, il nous regarde vivre avec lui dans nos foyers, dans nos maisons. Le bon Dieu se réjouit de voir ces familles chrétiennes où l'on prie, où ensemble l'on récite la prière du matin et du soir, où l'on récite le chapelet. Le bon Dieu se réjouit de voir ces enfants qui grandissent dans la foi et qui s'efforcent d'être éduqués chrétiennement, catholiquement. Le bon Dieu se réjouit de voir ces séminaires où ces jeunes gens se sanctifient, prient, font pénitence, étudient la vraie foi et se préparent aux ordinations avec piété, avec sérieux. Et le bon Dieu se réjouit de voir ces prêtres ensuite sanctifier les fidèles, sanctifier les familles chrétiennes. Tout cela, le bon Dieu se réjouit, s'en réjouit, ainsi que les saints anges du ciel. Alors nous sommes liés à eux, nous sommes avec le bon Dieu, nous sommes avec les saints anges, nous sommes avec tous les élus du ciel qui nous encouragent à continuer, à demeurer fidèles. Et le témoignage que vous allez donner tout à l'heure en faisant ce pèlerinage montrera précisément votre foi et fera du bien à tous ceux qui en seront les témoins, à tous ceux qui vous verront. Et puis surtout, attirera sur vous, sur vos familles, sur toute la fraternité, sur tous ceux qui suivent la tradition, qui sont membres de l'Église catholique, attira de grandes bénédictions par l'intercession de Notre-Dame, l'intercession de la très sainte Vierge Marie. Alors je vous félicite de tout cœur, mes bien chers frères. Ne soyez pas hésitants, n'écoutez pas les bruits qui courent de droite et de gauche et qui voudraient nous détourner de rester membres de cette famille de la tradition qui est vraiment la famille de l'Église catholique. Et demandez à la Vierge Marie la fidélité. Et nous sommes persuadés que de nombreuses bénédictions descendront sur vous et sur vos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je disais que c'était le grand complet cette fois, et très heureux d'avoir au moins cette réunion une fois dans l'année, parce que c'est difficile de vous regrouper maintenant tous ensemble, et ce sera encore plus difficile l'année prochaine quand il y en aura 30 de plus. Enfin, désormais ce sera Albano qui va doubler. J'espère que ceux qui se rendront là-bas pour la deuxième fois, eh bien, profiteront encore bien de cette année d'Albano. Si j'avais pensé seulement à un an au début, c'était en principe les prêtres qui devaient aller à Albano. J'avais pensé que c'était une année pour les prêtres, et puis, ma foi, avec les événements ont voulu que ce soit donc la première année après l'année de spiritualité. Si cette année s'était passée et si les jeunes avaient dû rester à Rome, dans la ville de Rome, je crois que j'aurais été assez défavorable à une deuxième année à Rome. Parce que malheureusement, la ville de Rome elle-même est loin d'être édifiante. Mais Albano, c'est autre chose. C'est un peu plus éloigné. Le climat y est meilleur. C'est pas vrai. Vous êtes tout près de la maison de repos du Saint-Père. Et je suppose que si les papes ont choisi Castel Gandolfo comme lieu de repos d'été, c'est que le climat ne doit pas être mauvais. Le climat est certainement meilleur à Albano qu'à Rome, en tout cas. Le climat non seulement physique, mais le climat moral aussi. Alors je pense qu'il ne sera pas trop désagréable et trop long pour ceux qui vont y passer 2 ans, de se trouver 2 ans dans cette ambiance de Rome. Nous sommes donc bien contents aussi de vous voir ici à l'occasion des ordinations. C'est toujours un moment important dans la vie du séminaire. Et puisque j'ai l'occasion d'avoir ces quelques journées ici au milieu de vous avant l'ordination, alors je profite pour faire un peu le point avec vous sur certaines questions qui peuvent se poser. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qu'est l'histoire du séminaire, ce que la Providence a permis au cours de ces maintenant 11 années, sinon 11 années de la fraternité, 12 années de la fondation du séminaire, car c'était en 69, première année à Fribourg. Eh bien, le séminaire, comme toute institution humaine, a ses joies et ses épreuves. Et les années ont été marquées parfois par certaines épreuves assez douloureuses, en particulier celle de 77, c'est d'il y a maintenant 4 ans.
séminaire a été assez fortement secoué. Et pourquoi le séminaire a-t-il, malgré tout, le séminaire et la fraternité, à travers ces difficultés, ont pu continuer? Je pense sincèrement que c'est parce que nous nous efforçons, je m'efforce personnellement et les êtres qui nous entourent nous efforcent de maintenir une attitude d'esprit, attitude intérieure, si je puis dire, attitude aussi de foi permanente et d'une orientation bien déterminée, bien définie. Alors on essaierait, on voudrait peut-être essayer de nous entraîner ici, là, et pour nous faire dévier de cette ligne qui semble bien être celle de l'Église, celle que l'Église a toujours tenue. Et ce n'est pas facile, évidemment, avec les années qui passent, avec les événements qui marquent la vie de l'Église, en particulier, évidemment, la succession des différents papes, depuis Jean XXIII jusqu'au pape Jean-Paul II. Cela a posé, avec le concile, l'après-concile, les réformes, des problèmes vraiment délicats, difficiles à nos consciences de chrétiens, de prêtres, d'évêques, évidemment. Alors je voudrais, comme je l'ai déjà fait, répéter, pour ceux qui peut-être ne m'ont pas souvent entendu au cours de conférences spirituelles, au cours de mise au point de ce genre, en particulier l'année de spiritualité, s'il est vrai, je dois bien reconnaître que je suis moins souvent à Écône qu'autrefois, que j'ai moins l'occasion peut-être de vous faire des conférences spirituelles, de vous préciser un peu ce que je crois être les lignes fondamentales de la fraternité et l'esprit que je souhaite voir régner dans le séminaire et dans nos séminaires. Alors je crois bon, au cours de ces conférences spirituelles, de le faire d'une manière plus précise. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur un point que je considère évidemment moins important que celui que je traiterai dans la suite, puisque là, il ne s'agit pas de questions d'orientation, d'idées, de principes, si vous voulez, dans le séminaire, mais de la discipline. La discipline du séminaire, la discipline de l'esprit, je dirais, de la discipline. Pourquoi je ne doute pas que le père directeur ait fait tout ce qu'il ait pu pour vous inculquer les bons principes du séminaire, mais peut-être ne les avez-vous pas entendus avec assez de docilité. Au moins, je parle en particulier, m'a-t-on dit, de l'année de spiritualité. J'en suis un peu surpris parce que, pour autant que j'ai fait les cours à l'année de spiritualité, je n'ai pas remarqué de différence particulière entre cette année et les années qui précédaient. Il paraît qu'il y a un peu plus de dissipation, un peu moins de conscience de la discipline nécessaire du séminaire. Et pour les anciens, ils le savent, puisqu'ils m'ont déjà entendu le dire et le répéter bien souvent, il est inconcevable pour des séminaristes de garder un esprit collégien. Un séminariste, s'il a été collégien, n'est plus collégien. Ce n'est pas possible. L'esprit collégien, c'est-à-dire qu'on, dans les règlements, On en prend et on en laisse. On les interprète à sa guise. On profite de toutes les occasions pour éviter ce qui est pénible ou ce qui est difficile dans le règlement. On a cet esprit qui critique ou qui ridiculise facilement ses professeurs, ses supérieurs. C'est ce que j'appelle l'esprit collégien, un esprit léger, un esprit qui ne se domine pas, un esprit qui se laisse aller à ses amusements. On s'amuse, on est toujours comme en amusement. On ne prend pas les choses au sérieux. Alors ça, c'est impossible. Un séminariste qui ne prend pas sa formation au sérieux, qui ne se met pas dans l'ambiance du séminaire, bien, c'est qu'il n'a pas la vocation, n'est pas à sa place ici. C'est évident, c'est clair. La formation du séminaire demande trop d'attention, trop de réflexion pour qu'on prenne les choses à la légère, pour qu'on traite le règlement avec légèreté et sans s'y tenir d'une manière régulière et sans y voir, avec esprit de foi, la volonté de Dieu. Si on vous donne des conseils et qu'il y a des consignes qui sont données dans le règlement du séminaire au sujet du silence, eh bien, il faut observer le silence. On ne doit pas à toute occasion et chercher les occasions de rompre le silence, d'aller frapper à la porte de ses confrères, non seulement parce qu'on manque à la charité vis-à-vis de ce confrère qui est en train de travailler et qui a besoin de silence pour travailler, mais aussi parce qu'on... Bien souvent, si on le fait sans raison suffisante, on perd son temps, on se dissipe. Or, quand on se trouve, et particulièrement dans une situation comme laquelle se trouve l'Église aujourd'hui, et le monde d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de gaspiller son temps et ses forces vives spirituelles à négliger sa formation, sa propre formation spirituelle au séminaire. Une année de perdue au séminaire, c'est le sixième, donc le sixième de la formation qui est perdu. Et cela, se ressentira après sur votre formation générale. Il faut penser à cela. Les âmes réclament de vous que vous ayez une formation sérieuse, une formation profonde, une formation spirituelle. Or, cette formation, vous ne pourrez pas l'acquérir dans un climat d'indifférence au règlement, de légèreté, de distraction continuelle, de recherche des distractions. Vous ne pouvez pas acquérir de formation dans ce climat-là. Il faut une formation de domination de soi, de soumission à la volonté du bon Dieu, une formation qui recherche le silence afin d'être uni au bon Dieu, afin de vivre dans ce climat spirituel que doit être celui du séminaire. Alors j'insiste beaucoup là-dessus, parce que j'estime que c'est vraiment manquer charité envers vous-même, pour ceux qui ont cet esprit, manquer de charité envers vous-même, manquer de charité envers vos confrères qui sont ici au séminaire, ou qui sont dans le séminaire, pour ceux que vous distrayez, que vous dissipez, et c'est manquer de charité, surtout pour les âmes qui vous attendent. Parce que dans la mesure où le séminaire n'aura pas été fait avec sérieux, avec profondeur, dans un esprit vraiment de foi, dans un esprit spirituel, de vie intérieure, et dans cette mesure-là, vous perdrez aussi la profondeur de votre vie sacerdotale lorsque vous aurez dans le contact avec le monde extérieur plus tard. Vous n'arriverez plus à vous recueillir, vous n'arriverez plus à prier. Et c'est ça qui a perdu les prêtres. Les prêtres qui ne prient pas. Les prêtres qui ne savent pas ce que c'est que la prière, qui ne savent pas ce que c'est que l'union à Dieu, qui ne savent pas ce que c'est que la recherche du silence, qui ne savent pas ce que c'est que la recherche de la méditation. Les prêtres qui étaient tout extérieurs, à la moindre difficulté, ils ont perdu le sens sacerdotal. Alors, je pense que cette remarque vous fera réfléchir ceux qui ont cette tendance. Grâce à Dieu, ceux-là ne sont pas nombreux, mais ça peut être sans aucune malice, sans méchanceté, de manque de réflexion, manque de sérieux. Il faut certainement corriger cette tendance pour ceux qui l'auraient. Nos séminaires ont toujours été caractérisés précisément par cette ambiance de sérieux, de silence. Les personnes qui viennent au séminaire, qui ont l'occasion de visiter le séminaire, sont frappées en général par ce silence. Je me souviens que Mgr Morillo, une fois au temps où Mgr Morillo acceptait de venir ici passer quelques jours, ancien évêque de La Rochelle, m'avait fait la remarque suivante à la fin de son séjour. Il m'avait dit, on a l'impression d'être dans un noviciat. Eh bien, ça avait été pour moi le meilleur compliment. Eh oui, en définitive, c'est cette atmosphère qui devrait régner, l'atmosphère de noviciat, c'est-à-dire de ceux qui recherchent avec patience, persévérance, volonté ferme, la perfection. Recherche la perfection. Et ne se laisse pas aller à leurs petits caprices, à leur légèreté, à leur, aux distractions, ne prennent pas les choses au sérieux. Donc, chers amis, le drame que vit l'Église demande aujourd'hui à nos séminaires et à nos séminaristes cette recherche d'une grande perfection pour pouvoir donner au monde ce qu'il attend de vous, cette rénovation de l'Église, si nécessaire, si indispensable. Ensuite, autre remarque que je me permets également de faire, c'est que dans ce récit, il y a une atmosphère de ce genre. Il est aussi plus facile que se développe un certain esprit de critique. C'est un esprit de critique. N'ayant pas l'esprit tourné uniquement vers sa propre formation, vers la formation surnaturelle, vers la formation spirituelle, vers sa propre sainteté, celui qui est comme ça, dans une ambiance de superficialité, bien, aura cette tendance à la critique. Il jugera ses confrères, il jugera ses professeurs, il jugera son directeur, il jugera tout ce qui se fait autour de lui. Comme il n'aime pas se retrouver avec lui-même et rentrer en lui-même pour voir ses propres défauts, essayer de se corriger, se critiquer lui-même, alors il aura cette tendance à critiquer l'extérieur, ce qui se fait autour de lui. Tendance à l'esprit qui est très mauvais. On a bien plus davantage à se critiquer soi-même et à chercher à faire sa propre conversion que de toujours penser à la conversion de ceux qui vous entourent. C'est bien plus l'attitude dans le séminaire et bien plus celle-là que d'autres attitudes. Tout n'est pas parfait, dans le séminaire. Tout n'est pas parfait. Ceux qui sont vos pères spirituels, nous avons tous nos défauts. Mais au lieu de rechercher justement ce qui est critiquable, ce serait plutôt le devoir de charité, le devoir de vérité devrait imposer de rechercher au contraire les qualités, les bienfaits que vous recevez ici de ceux qui peuvent vous enseigner, de ceux qui peuvent vous faire du bien. C'est comme cela que petit à petit, dans un climat d'esprit critique, que tout doucement viennent certaines petites crises à l'intérieur du séminaire, parce que à ces critiques s'opposent d'autres critiques, et ainsi se forment des petits groupes, des petits clans qui nuisent tout à fait à l'unité du séminaire, qui nuisent à ce climat général qu'on devrait ressentir au séminaire et qui est tout à fait favorable à la prière, à la formation spirituelle, aux études. Ce qui, grâce à Dieu, c'est tout de même produit durant, ces 4 dernières années. C'est admirable de voir justement avec quelle conscience, avec quel zèle, le séminariste d'une manière générale.
Deo Patris. Jesus actus gustus in effect. Thank you.
Jesus,